Imaginons un instant, juste pour commencer cette nouvelle plongée aujourd'hui, imaginons l'achat de la biographie tant attendue d'un nouveau souverain. On ouvre le livre, on s'attend à une préface glorieuse, et sur la toute première page, paf.
Paf, la catastrophe, ouais.
Voilà, on tombe sur un arbre généalogique qui met fièrement en évidence tous les scandales, les criminels, les parias et les brebis galeuses de la famille.
C'est pas vraiment le meilleur plan com, on est d'accord.
C'est clair. Mais c'est exactement ce qui se passe dans le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Je suis votre animatrice pour cette analyse en profondeur et je suis ravie d'être avec notre expert du jour pour décortiquer ça.
Bonjour.
Et je suis prêt à plonger là-dedans parce que c'est un texte fascinant. Absolument. Dans cette analyse qui s'appuie beaucoup sur les recherches du docteur Craig Kenner, notre mission, c'est de démontrer comment ce texte antique, qui est souvent perçu à tort comme une liste de règles poussiéreuses ou une généalogie un peu assolante, est en réalité un manifeste radical.
Un manifeste qui renverse la table, littéralement.
C'est ça. C'est une œuvre magistrale qui subvertit totalement les attentes sociales, culturelles et religieuses de son époque. L'objectif pour les auditeurs aujourd'hui, c'est d'extraire ces véritables moments de révélation, les moments Eureka, quoi, pour comprendre la mécanique de ce texte, ce qu'il exigeait et ce qu'il offrait. Et pour saisir une œuvre aussi complexe, la meilleure stratégie consiste parfois à ignorer le début.
Oui, on va carrément lire la toute dernière page en premier.
D'accord, décortiquons un peu tout ça. Pourquoi commencer par la fin ?
Cette approche à rebours, elle est indispensable ici. Si on regarde le contexte historique, ce texte a probablement été rédigé après l'an 70 de notre ère.
Donc juste après la destruction du temple de Jérusalem, c'est bien ça, non ?
Exactement. C'est une période de traumatisme et de bouleversement massif.
Et le texte se clôture par un passage hyper célèbre au chapitre 28, qu'on appelle souvent la Grande Commission.
Oui.
Et c'est pas juste un petit épilogue sympa. C'est vraiment la clé de voûte de toute l'architecture du bouquin. Ça résume tous les thèmes majeurs. Le ministère interculturel, l'évangélisation, l'éducation. Avec un impératif central qui est extrêmement clair.
L'impératif de faire des disciples, c'est ça ?
C'est ça. Et le texte précise que ça s'accomplit par trois actions très spécifiques. Aller vers les nations, baptiser et enseigner. C'est un peu comme, tu sais, c'est comme regarder la scène finale d'un grand film à suspense où le détective révèle le mobile du crime. Et soudain, on réalise que tous les indices étaient cachés en pleine lumière dès les 5 premières minutes du film.
Oh, la magie est parfaite, ouais.
Mais du coup, ça me pose un énorme problème de logique, cette histoire. On parle d'un livre qui est censé s'adresser principalement à des croyants d'origine juive, non ? Des gens ancrés dans une tradition hyper spécifique.
Oui, un public très judéo-chrétien au départ.
Oui, alors comment cette idée d'une mission mondiale dirigée explicitement vers les nations païennes, les non-juifs, comment ça peut s'inscrire dans ce cadre-là ? Est-ce que, je sais pas, l'auteur a simplement changé d'avis à la fin de son livre en se disant « Tiens, on va élargir notre cible marketing ».
C'est la réaction naturelle qu'on pourrait avoir. Hein. Mais l'auteur n'a pas fait d'improvisation de dernière minute. La preuve que cette mission vers les nations a toujours été le plan initial, elle se trouve dans l'endroit le plus improbable possible.
La fameuse généalogie du premier chapitre.
Exactement. Il faut bien comprendre que dans le monde antique, et particulièrement dans la culture de l'époque, une généalogie, c'était pas un petit exercice de nostalgie pour les repas de famille.
C'était pas un arbre sur Ancestry.com, quoi.
Pas du tout. C'était un document légal et officiel. Son but explicite, c'était de prouver la pureté absolue d'une lignée.
Pour prouver qu'on était un Israélite sans aucun mélange, c'est ça ?
Voilà. Pour montrer qu'on était digne d'accéder à certains privilèges ou à des fonctions royales.
Donc, présenter une lignée 100% pure, c'était le ticket d'entrée. Mais alors, Matthieu pirate complètement le système. Parce que, arrête-moi si je me trompe, mais les généalogies antiques ne mentionnaient pratiquement jamais de femmes, non ?
Très très rarement. C'était une société hyper patriarcale.
Et pourtant, là, il inclut délibérément 4 femmes dans cette liste. Tamar, Rahab, Ruth et la veuve d'Uri, qu'on connaît surtout sous le nom de Bethsabée.
Et le truc de dingue avec ces 4 femmes, c'est qu'elles sont toutes, absolument toutes, associées aux gentils, donc aux non-juifs.
C'est fou de prendre ce risque. Pourquoi inclure des étrangères dans un document qui est littéralement censé prouver une légitimité juive et royale ?
Ce qui est absolument fascinant ici, c'est le contraste moral et ethnique que l'auteur construit consciemment. Prenons juste le cas de Rahab.
Ouais, la femme de Jéricho.
Historiquement, c'était une Canaanite. Et dans les récits anciens, son histoire est souvent mise en parallèle avec celle d'un homme nommé Achan.
Achan, d'accord. Il était qui, lui ?
Achan appartenait à la prestigieuse tribu de Juda. C'était l'initié par excellence. Le mec avec le pédigré irréprochable. Pourtant, c'est Achan, le pur souche, qui a trahi son propre peuple en volant du butin, ce qui a entraîné la ruine de toute sa famille.
Ah ouais, le traître de l'intérieur.
Exactement. Et à l'inverse, on a Rahab l'étrangère qui a risqué sa propre vie pour cacher les espions israélites et qui a sauvé toute sa maisonnée. Le message de Matthieu est cinglant.
L'appartenance ethnique ne garantit pas du tout la fidélité.
C'est tout à fait ça. Ensuite, il y a Ruth la Moabite. La loi ancienne interdisait carrément Moabite d'entrer dans l'assemblée pendant 10 générations, mais elle y accède par sa loyauté indéfectible.
Et Bethsabée.
Bethsabée, bien qu'elle fût peut-être de la tribu de Juda, elle était mariée à Uri le Hittite, un autre peuple étranger.
C'est d'une audace folle quand on y pense. Au lieu de cacher les ancêtres un peu compromettants sous le tapis, il construit cet immense arbre généalogique pour s'en vanter publiquement. Et puis il y a aussi cette structure mathématique bizarre. Il force des groupes de 14 générations, non ?
Oui, il saute carrément des générations entières pour forcer cette structure de 3 fois 14.
Mais comment on peut justifier de zapper des ancêtres dans un document officiel ? C'est de la fraude, non ?
Pour un lecteur moderne, oui. C'est une falsification historique. Mais pour le lecteur antique, c'est de l'architecture théologique. En forçant ce rythme, l'auteur signale que l'histoire, c'est pas juste une suite d'événements aléatoires.
Il montre qu'il y a un plan derrière.
Voilà. Le temps est accompli. L'histoire suit un plan divin rythmé. D'Abraham à David, de David à l'exil, et de l'exil à la naissance de Jésus. Et pour souligner ça, il utilise des jeux de mots midrashiques.
Des jeux de mots, mais genre quoi, des petites erreurs d'orthographe ?
Pour nous, ça ressemblerait à des coquilles, oui. Mais dans la tradition midrashique, une anomalie textuelle, c'est jamais une erreur. C'est un signal lumineux.
Un panneau qui dit « Cherchez la signification cachée ».
Exactement. Par exemple, le nom du méchant roi Amon est modifié exprès pour s'écrire Amos.
Comme le célèbre prophète de la justice sociale.
C'est ça. Et le roi Asa devient Asaph, le nom d'un grand psalmiste. Donc, par cette mécanique super subtile, il dit au lecteur averti que Jésus n'hérite pas seulement d'un trône politique.
Il hérite de l'esprit prophétique et de la tradition des psaumes. C'est brillant. Mais attends, si je suis la logique du récit, si les exclus, les gentils, les étrangers sont élevés au rang d'ancêtres honorifiques, dès la page 1, ça devait poser un énorme problème de réception.
Ah ben, ça devait faire grincer des dents, c'est sûr.
Un lecteur de l'élite religieuse de l'époque devait être outré. Si la pureté sanguine ne vaut plus rien, comment le texte traite-t-il les initiés, ceux qui pensaient détenir les clés du royaume ?
Il les traite avec une sévérité déconcertante. C'est une inversion totale des rôles. Regarde la dynamique du chapitre 2. Qui sont les premiers à adorer le nouveau roi ?
Les mages.
Les mages. Et il faut bien comprendre qui ils sont. Ce sont des conseillers de la cour païenne de Perse, des astrologues.
Et dans la loi biblique, l'astrologie, c'est pas... Enfin, c'était passible de la peine de mort, non ?
Carrément. C'était un crime capital. Et pourtant, ce sont eux, les païens condamnables, qui saisissent la vérité. Et en face, on a qui ?
Hérode, le roi des Juifs.
Hérode, qui est d'origine édomite, d'ailleurs. Et comment il réagit ? Il adopte exactement le comportement du pharaon païen du livre de l'Exode, en ordonnant de massacrer des enfants.
L'inversion donne le vertige, en fait. Les païens lointains agissent comme des croyants fidèles, et le roi en place agit comme le pire oppresseur païen.
Et ce motif, il fait que s'accélère. Plus tard, on voit un centurion romain, le symbole de l'occupation militaire, qui a une foi tellement incroyable qu'elle laisse Jésus admiratif.
Ah oui, et puis il y a la femme cananéenne. Et d'après nos sources, le terme cananéenne, c'est pas juste géographique, c'est très chargé politiquement, n'est-ce pas ?
Extrêmement chargé. Les cananéens, c'était l'ethnie historiquement la plus méprisée. Là, elle appartenait à la classe dirigeante grecque de Syrophénicie.
Donc pour les paysans ruraux de Galilée, c'était vraiment l'ennemi.
C'est ça. Cette élite urbaine, elle pillait littéralement les ressources agricoles des Galiléens. C'était l'ennemi de classe et l'ennemi ethnique combiné.
Et pourtant, Jésus valide publiquement sa foi et la récompense. Alors que pendant ce temps-là, les initiés reçoivent un traitement glacial. Les villes galiléennes comme Capharnaüm se font carrément incendier verbalement.
Le contraste est terrifiant pour un auditeur de l'époque. Ouais. Le texte dit que ces villes super privilégiées seront jugées plus sévèrement que Sodome et Gomorre.
Sodome et Gomorre, Oa, le symbole ultime de la corruption.
Oui. Jésus dit même à ses disciples que s'ils sont rejetés par ces villes israélites, ils doivent secouer la poussière de leurs pieds.
Ce qui était un geste réservé au territoire païen, si je me souviens bien.
Exactement. Les juifs pieux faisaient ça en quittant une terre païenne pour ne pas souiller la terre sainte. Appliquer ce geste à des villes d'Israël, c'est les déclarer spirituellement païennes.
Donc, si je résume, le privilège d'avoir un accès direct à la vérité, dans ce texte, c'est pas un bouclier, c'est un danger mortel si on n'en fait rien.
C'est implacable. Une plus grande exposition à la lumière entraîne une responsabilité décuplée ou jugement.
C'est fascinant. Mais attends, ça soulève un point crucial. Si ton pédigré parfait ne sert à rien, et si être au cœur du système t'expose à un jugement plus sévère, comment on entre dans ce nouveau royaume ? Ça nous amène au baptême.
Le fameux baptême de Jean-Baptiste.
Voilà. Et là encore, il y a un énorme malentendu. Nous, on lit ça, on se dit, d'accord, un petit rituel de purification. Les Juifs allaient déjà plein de bains rituels comme le mikvé. Pourquoi est-ce que le baptême de Jean a été vu comme une telle provocation ?
La différence, c'est le statut de la personne qui se peigne. Le mikvé, c'était la routine. Tu touchais un truc impur, tu te plongeais dedans et tu reprenais ta vie de bon israélite.
D'accord, un nettoyage régulier.
Mais le rituel d'immersion totale de Jean-Baptiste s'était réservé à une seule catégorie, les païens qui se convertissaient au judaïsme.
Ah, je vois. C'était le rite de passage pour les étrangers.
Exact. En exigeant que des juifs de naissance passent par ce bain-là, Jean-Baptiste leur arrachait leur carte VIP génétique. Il leur disait « Vos ancêtres ne vous sauveront pas, vous êtes au même niveau qu'un païen ».
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette redéfinition du baptême au début, elle explose à la fin du livre. On revient à la grande commission du chapitre 28.
L'ardre n'est plus juste de baptiser pour la repentance, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et Jésus lâche cette phrase qui donne le vertige. « Tout pouvoir m'a été donné et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est un peu comme rajouter un petit post-scriptum à la constitution d'un pays pour s'en déclarer le maître absolu.
Les implications sont cataclysmiques. Dans la pensée juive antique, l'omniprésence, c'est une caractéristique exclusive de Dieu.
Personne d'autre ne peut être partout à la fois.
Voilà, les rabbins utilisaient le mot « makom », le lieu, pour désigner Dieu. Donc, quand Jésus promet d'être là tous les jours, partout, il ne parle pas d'une aide à distance. Il affirme être la présence divine.
C'est l'accomplissement du nom du chapitre, 1, Emmanuel, Dieu avec nous.
C'est exactement ça. Il redéfinit la Shekinah, la présence glorieuse de Dieu autour de sa propre personne.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? On a un roi qui revendique une autorité divine absolue, ok, mais un royaume a des lois. Et là, le texte structure ses règles autour de 5 grands discours, un écho clair aux 5 livres de la Torah, sauf que le coup d'entrée est délirant.
Le niveau de renoncement exigé, ça détruit la sécurité humaine de base.
Il demande à des pêcheurs de tout plaquer. Et d'ailleurs, en Galilée, au 1er siècle, les pêcheurs, c'était pas des pauvres marginaux, n'est-ce pas ?
Pas du tout. C'était des entrepreneurs. Ils avaient des petites entreprises de pêche très lucratives. Ils gagnaient mieux leur vie que la plupart des paysans. C'était un emploi stable.
Et il exige qu'ils lâchent tout. Et il exige aussi d'abandonner la sécurité du logement, vu qu'il se décrit comme un réfugié itinérant. Mais le plus subversif, c'est sur les obligations sociales.
La famille, c'est là que ça frappe le plus fort.
L'exemple qui est vraiment dur à avaler, c'est quand un type veut le suivre et Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Pour nous, ça semble juste hyper froid.
Mais dans le Proche-Orient ancien, c'était d'une violence inouïe. Enterrer son père, c'était pas juste triste, c'était la plus sacrée des obligations filiales.
Ne pas le faire, c'était devenir un paria du jour au lendemain.
Totalement. En demandant ça, Jésus ne fait pas de la provocation gratuite. Il revendique une priorité d'allégeance que la culture n'accordait qu'à Dieu.
Et soyons honnêtes, ces exigences, elles sont juste impossibles à tenir. Humainement parlant, personne ne peut soutenir une telle abnégation sans finir par craquer. Le manuel de ce royaume a l'air voué à l'échec, faute de participants viables.
Cela soulève une question fondamentale sur la nature même de ce texte. Si c'était qu'un code de loi, oui, ce serait un échec. Mais c'est un récit. Un récit où la grâce divine opère dans le fiasco total des disciples.
Parce qu'ils échouent lamentablement, hein, faut le dire.
Mais oui. Regarde la nuit à Gethsémané. C'est la Pâque. Ils doivent veiller pour célébrer la délivrance. Qu'est-ce qu'ils font ?
Ils dorment.
Ils s'endorment. À l'arrestation, ils s'enfuient. Et pour porter la croix, aucun d'eux n'est là. Les Romains doivent forcer un passant au hasard, Simon de Cyrène.
Le contraste est incroyable. Des règles divines, mais des exécutants pathétiquement humains. Et pourtant, le roi ne les licencie pas. C'est cette grâce inattendue qui amortit le coup radical.
Et ces hommes défaillants deviennent les catalyseurs de la mission mondiale.
C'est fou. Et justement, en parlant de grâce et de gens ordinaires confrontés à des exigences folles, il faut revenir au premier chapitre. On a parlé de la généalogie, mais il y a un personnage central, un héros de l'ombre absolue, Joseph.
À Joseph, c'est le cas d'étude parfait pour comprendre cette nouvelle forme de justice.
Explique-nous un peu le droit matrimonial de la Galilée à l'époque, parce que c'est très différent d'aujourd'hui.
Complètement. Les fiançailles, c'était déjà juridiquement contraignant. Les fiancés étaient considérés comme mariés légalement, même s'ils n'habitaient pas ensemble.
Donc pour annuler des fiançailles, il fallait un vrai divorce.
Oui, un document formel appelé le guet. Et quand Marie se retrouve enceinte, sans explication normale, Joseph a le droit absolu de divorcer publiquement pour infidélité.
Et socialement, tout le poussait à le faire. Ça lui permettait de prouver son innocence. Il pouvait récupérer la dot. J'ai même lu que la loi romaine punissait les maris qui fermaient les yeux sur l'infidélité, en les traitant de proxénètes.
La pression pour la dénoncer devait être écrasante, oui. Mais si l'on relie cela à la vision d'ensemble du texte, l'attitude de Joseph est fondatrice. Par pure compassion, avant même le rêve avec l'ange, il décide de divorcer secrètement.
Pour lui éviter le lynchage public.
Voilà, ça nécessitait juste deux ou trois témoins. Mais après, l'ange lui parle, et sa consécration devient totale. Il l'épouse.
Le paratonnerre volontaire d'un scandale massif. Tout le village allait penser que c'était de sa faute.
Exactement. Et le récit souligne aussi leur maîtrise de soi. Ils vivaient sûrement dans une pièce unique, rattachée à la maison familiale. Et pourtant, ils s'abstiennent de toute relation intime jusqu'à la naissance.
Ce qui veut dire qu'ils renoncent volontairement à prouver la virginité de Marie lors de la nuit de noces, ce qui était capital pour l'honneur familial à l'époque.
Tout ce sacrifice, c'est pour honorer la naissance du Messie. Et d'ailleurs, c'est pas du tout comme les mythes grecs avec des dieux qui abusent de femmes mortelles. Ici, c'est un acte de création spirituelle.
Matthieu relie ça à Ésaïe 7.14, l'histoire du roi Ahaz et de l'enfant Maher Shalal Hashbaz.
Oui, il comprend que cette ancienne prophétie pointait vers quelque chose d'immense. Dieu qui fait irruption dans l'histoire.
Et cette irruption, elle redéfinit tout. Joseph est appelé un homme juste, mais sa justice n'est pas l'application froide des règles, c'est de la miséricorde pure. Il préfigure Jésus qui sauvera son peuple au lieu de l'écraser.
C'est la synthèse parfaite. Cet évangile, c'est pas un registre poussiéreux, c'est un texte explosif qui brise des barrières.
Un manifeste qui offre une grâce inouïe aux exclus et aux imparfaits. C'est une mécanique de renversement brillante. D'ailleurs, si on prend un peu de recul pour finir, dans l'Antiquité, on l'a vu, les généalogies et la pureté, c'était des armes pour verrouiller le pouvoir, pour exclure l'autre. Matthieu a piraté ce système pour montrer que la table est ouverte à tous. Et ça m'amène à une réflexion finale.
Je t'écoute.
Quelles sont nos généalogies modernes aujourd'hui ? On pense à nos CV ultra formatés, aux algorithmes invisibles qui filtrent les profils, aux critères impitoyables de validation sociale. Quels sont ces systèmes qu'on utilise, souvent sans s'en rendre compte, pour fermer la porte aux autres ? Et surtout, comment on pourrait les subvertir à notre tour pour générer une inclusion aussi radicale que celle de ce texte? Finir là-dessus, c'est se rappeler que les outils les plus ennuyeux en apparence cachent parfois le potentiel de subversion le plus puissant.
C'est une excellente question pour conclure. Merci de l'avoir posée.
Merci à toi pour toutes ces lumières et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.